Plateau Radio. Événements spéciaux. Live report. Interviews et reportages. Radio Campus Angers sort du studio et part à la rencontre des actrices et acteurs qui font vivre le territoire.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale à l'occasion de la semaine internationale organisée par le campus droit, économie, gestion de Saint-Serge de l'Université d'Angers. Nous sommes ensemble pendant une heure pour parler d'Europe au cœur de cette nouvelle édition de la semaine internationale. Toute la semaine ont lieu des conférences, des échanges, des expositions en tout genre et nous aurons le plaisir de discuter avec monsieur Jean-Marc Minier, président de la Maison de l'Europe du Maine-et-Loire, Catherine Défunt-Krapski, vice-doyenne de la faculté droit, économie, gestion en charge des relations internationale et enfin Christophe Daniel, doyen de la faculté droit, économie, gestion de Saint-Serge. Allez, on est bien sur les ondes de Radio Campus Angers, on est ensemble pendant une heure, on parle d'Europe, c'est parti. Et nous sommes au cœur de l'Université d'Angers sur le campus de Saint-Serge dans les bâtiments droit, économie, gestion avec Catherine Défunt-Krapski. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vice-doyenne de la faculté droit, économie, gestion en charge des relations internationales. Et évidemment, la semaine internationale, c'est aussi l'occasion pour les étudiants de penser à leur mobilité à l'international. Donc évidemment, tout le monde connaît les programmes Erasmus. Oui. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que tous les étudiants peuvent prétendre à partir en Erasmus?
Alors, tous les étudiants qui sont en deuxième année de licence et au-delà, peuvent effectivement prétendre à une mobilité d'un semestre ou d'une année en Europe, mais aussi hors Erasmus, hors Europe, pendant un semestre ou une année, donc en L3, Master 1, voire Master 2.
Et ces temps-là peuvent durer maximum 2 semestres?
Alors, en licence, ils ont le droit de partir effectivement maximum 2 semestres, et à nouveau, en Master, ils peuvent repartir 2 semestres, c'est-à-dire que sur 5 années, on peut au maximum partir 4 semestres.
Comment ça se déroule la mobilité sortante de vos étudiants et étudiantes? Quels sont les process à mettre en place? Quelles sont les pattes blanches à montrer? Quels sont les sésames à apporter?
Alors, oula, donc là, il y a énormément de choses. La première chose, c'est d'être très motivé, bien évidemment. Une autre chose, c'est de ne pas avoir de difficultés académique à l'Université d'Angers, puisque un étudiant qui va partir en mobilité, forcément, ça va être un petit peu compliqué, notamment au départ. Les cours sont dans une langue étrangère, les systèmes sont différents, donc il faut quand même un temps d'adaptation. Donc, il faut des étudiants qui soient assez solides. Et aussi, on ne part pas à l'international pour apprendre une langue, mais pour s'améliorer dans cette langue. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir un niveau B1+, B2 dans la langue d'enseignement pour partir étudier à l'étranger.
Donc ça veut dire que les étudiants potentiellement en difficulté ne peuvent pas prétendre à la mobilité internationale?
Ah, si on est en difficulté, effectivement, si on ne valide pas son semestre ou son année, effectivement, on ne peut pas partir. Et un étudiant, effectivement, en difficulté à Angers, on ne garde pas le dossier, oui.
Ça veut dire quoi en difficulté? Ça veut dire que si jamais j'ai validé ma licence avec, je ne sais pas, mettons 11, ce n'est pas suffisant?
Ah si! C'est vraiment les étudiants qui ne valident pas, qui sont vraiment sur le point de rater l'année.
D'accord.
Ah oui, non. Ah non, parce que les notes, c'est une chose, mais la motivation, c'est très important. Et on a déjà, souvent, on a eu le cas d'étudiants qui sont moyens à Angers et qui, en fin de compte, vont avoir des très bons résultats à l'étranger, tout simplement parce que c'est ce qu'il leur fallait.
Christophe Daniel, vous êtes doyen de la faculté économie et gestion de l'Université d'Angers. Est-ce que vous avez pu profiter de mobilité internationale quand vous étiez étudiant?
Oh là là, non, pas du tout. Il n'y avait pas ce type. Je suis très vieux maintenant et donc il n'y avait
Erasmus
pas.
Erasmus est apparu en 86.
Oui, alors j'étais étudiant en 86, mais je n'ai pas bénéficié de ces dispositifs. C'était vraiment naissant en 1986. Et les étudiants d'aujourd'hui ont une grande chance, grâce à tous les dispositifs que, en particulier, l'Union européenne. Mais au-delà, leur propose, c'est vraiment une chance extraordinaire. Et grâce aussi au travail des personnels, des personnes qui sont en charge de l'international, dans les facultés, dans les composantes de l'université, qui travaillent beaucoup pour établir des partenariats avec d'autres universités étrangères. Ça demande un gros travail administratif, pédagogique, scientifique et de mise en relation au profit des étudiants.
Donc on parle depuis tout à l'heure de mobilité à l'international. Vous avez mentionné rapidement que ça pouvait être aussi en dehors de l'Union européenne. Ça veut dire qu'il y a potentiellement des partenariats avec les États-Unis, l'Australie, peut-être aussi des pays africains.
Alors oui, il y a tout ce qu'on appelle des accords bilatéraux, donc avec en composante, mais aussi avec le service central des relations internationales. On essaie de faire des accords effectivement bilatéraux au Canada, au Mexique, en Amérique latine, en Asie. Mais on a aussi la chance à Angers de faire partie du réseau qui s'appelle ISEP, qui est un réseau d'universités au niveau mondial. Et dans ce réseau, il y a 300 universités, dont 145 aux États-Unis, et toutes les autres se dispatchent en Europe, hors Europe, en Asie, etc. Et donc, nos étudiants, on a des places et nos étudiants peuvent candidater aussi à ces dispositifs. Et on a aussi un nouveau dispositif dont on fait partie depuis quelques années, qui s'appelle Asia Exchange. C'est la direction internationale qui avait décidé en fait de faire cette coopération avec Asia Exchange parce qu'on a de plus en plus de demandes pour aller en Asie.
Et comment ça se passe, les échanges avec les pays où potentiellement, je pense notamment à Taïwan ou peut-être même à l'Ukraine. En ce moment, évidemment, les situations géopolitiques en fonction des régions du globe sont parfois tendues. Est-ce que c'est possible de mettre en place des accords bilatéraux dans les zones qui sont aujourd'hui un peu en difficulté, où il y a des conflits qui sont des zones de conflit?
Non, dans les zones de conflit, hors de question. On va pas prendre de risques à nos
étudiants.
Pour
les étudiants journalistes, ça pourrait être très intéressant. Mais bon, il n'y a pas
oui,
encore
non,
de
non.
cursus journaliste.
Non, non, hein. Alors on a un système à l'université d'Angers. Là, on a eu récemment un cas d'une étudiante qui demandait à aller dans une zone à risque. Et donc là, on a un service sécurité, en fait. Hein, et donc on a contacté la direction internationale qui a contacté ce service. Et la réponse a été non, il ne faut pas laisser partir l'étudiante. Donc non, en fait, on est très vigilants. On fait très attention, il est hors de question, on coucoune pas les étudiants, on les empêche pas de partir dans certaines destinations, mais quand on sait qu'il y a un risque vraiment avéré, et notamment il suffit d'aller sur le site diplomatie.gouv.fr pour savoir, et,
toutes les infos.
Et là, non, il est hors de question qu'on fasse prendre des risques à nos étudiants.
On parle depuis tout à l'heure de mobilité sortante, c'est-à-dire des étudiants de l'Université d'Angers qui vont à l'international, mais l'Université d'Angers accueille aussi énormément d'étrangers, d'étudiants étrangers.
Oui, alors on accueille des étudiants étrangers dans le cadre de différents dispositifs, dans le cadre d'Erasmus, ISEP, etc. Donc les dispositifs classiques pour faire de la mobilité, donc dans les étudiants internationaux et les étudiants qu'on appelle d'échange. Donc il y a des partenariats entre les universités et on a tous les étudiants internationaux qui viennent d'eux-mêmes ou qui viennent via Campus France. Donc là, il y a plusieurs catégories en fait d'étudiants internationaux à l'Université d'Angers. Donc effectivement, il y en a beaucoup. Et donc là, dans chaque composante, il y en a. Et nous, en termes d'échange, donc on a des étudiants qui viennent de nos universités partenaires en Europe et hors Europe.
Et vous avez aussi un service qui s'appelle le SELF pour permettre aux étudiants étrangers d'apprendre à parler français. C'est un centre spécialisé dans l'apprentissage de la langue française.
Voilà, le SELF fait partie en fin de compte de toute la grande direction de l'international de l'Université d'Angers. Et effectivement, il y a au SELF des cours de français, français langue étrangère. Et il y a aussi des cours de français pour les étudiants Erasmus. Pour les étudiants, nous, on a des triples diplômes, des doubles diplômes. On demande à nos étudiants, même si nos cours sont en anglais, d'aller suivre des cours de français.
Christophe Daniel, je suppose que dans les plaquettes de la faculté droit et éco-gestion, il y a aussi une forte part qui est liée des enseignements qui sont liés à l'international et qu'aujourd'hui les étudiants sont en demande de cette ouverture vers le monde.
Tout à fait. On les rencontre dans les salons, lors des journées portes ouvertes et on a de nombreuses questions relatives à l'international. Et dans nos formations, eh bien, nous avons de nombreux cours d'économie, de gestion liés à l'international. Nous avons un master de droit international européen. Et donc il y a énormément d'enseignements liés à l'international. Et on a oublié d'évoquer quelque chose d'important depuis quelques années maintenant à l'Université d'Angers, c'est que l'Université d'Angers fait partie d'un réseau d'universités européennes qui s'appelle EU Green, Voilà, et c'est un réseau qui se développe. C'est une très grande chance d'appartenir à un réseau d'universités européennes. Alors, ce réseau se débute un petit peu, se développe. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais nous l'espérons, cela va permettre à de plus en plus d'étudiants, mais aussi de personnel d'enseignants-chercheurs, d'enseignants, personnel administratif également, de partir à l'étranger, voir comment ça se passe dans un autre pays, dans une autre culture.
Comment est-ce que la faculté droit, économie, gestion de Saint-Serge s'implique pour l'Europe, puisque c'est bien là la thématique de cette semaine internationale ?
Bien, comme je viens de le dire, en organisant, en proposant des formations, et puis aussi de nombreuses recherches sur la thématique de l'international, en faisant venir des partenaires comme les Maisons de l'Europe pour organiser ou participer à des conférences régulières. Et puis nous avons bien quand même une vice-doyenne en charge des relations internationales pour mettre en avant justement cette dimension internationale que l'on veut pour à la fois pour nos étudiants et pour nos enseignants et chercheurs.
Les jeunes sont assez peu mobilisés finalement par les enjeux européens. Comment est-ce que vous sentez, vous, les étudiants de la faculté de droit, économie, gestion de Saint-Serge vis-à-vis de ces enjeux européens ?
Alors, il est très difficile de mobiliser les étudiants, quelles que soient les élections, voilà, et y compris les élections étudiantes. Donc, sur la question de l'Union européenne, j'avoue que je ne sais pas trop répondre à votre question. Il y a des étudiants qui sont engagés et qui ont une opinion, mais la plupart, je pense, n'ont pas nécessairement d'opinion sur les élections à l'Union européenne qui vont bientôt arriver.
Et ça, c'est peut-être un peu dommage. Peut-être que dans les modules proposés ou ces semaines internationales-là servent aussi à ça, je suppose.
Bah oui, c'est vrai que quand on a eu justement la demande de la Maison de l'Europe, on a sauté sur l'occasion. Je ne sais pas si vous avez vu dans le hall, justement, il y a une exposition.
Oui, tout à fait.
Donc là, moi, je suis contente de voir quand même les étudiants regarder les panneaux et s'arrêter et lire longuement. Donc peut-être que ça va avoir des effets. Je pense que c'est notre rôle de toute façon de les informer. L'université est quand même en grande partie là pour informer et former les jeunes. Donc nous, voilà, on les informe et on espère voilà, que ça va avoir une influence sur leur comportement, leur inscription sur les listes électorales déjà.
Puisque c'est bien là l'enjeu aussi.
Voilà, hein, faut qu'ils s'inscrivent déjà. Et puis... on va avoir une conférence tout à l'heure, donc on va avoir les questions qu'ils ont.
C'est ça, jusqu'à 19h ce soir, voilà. Une conférence sur les élections européennes 2024. Monsieur le président de la Maison de l'Europe, prend le micro, bonjour.
Oui, juste pour souligner qu'il existe une association d'étudiants et d'étudiantes en droit qui s'appelle RADI. Et qui nous a sollicité à plusieurs reprises pour intervenir sur des questions européennes. Et la dernière intervention, c'était notre députée européenne locale, Catherine Chabot, qui est venue de parler devant ses étudiants et devant le grand public qui s'était joint aux étudiants de l'enjeu de la protection des océans.
Donc ancienne navigatrice, Madame Chabot,
tout à fait.
Forcément très impliquée.
Et j'observe qu'au sein de l'Université d'Angers, c'est probablement les étudiants en droit, économie et gestion qui sont les plus sensibles, en tout cas ceux qui nous sollicitent le plus au titre de la connaissance des questions européennes. Il y a une autre discipline qui s'intéresse à l'Europe régulièrement, ce sont les étudiants en pharmacie qui régulièrement organisent à Angers un grand rassemblement national et qui, à chaque fois, nous ont sollicité, nous, Maison de l'Europe, pour venir parler des questions européennes et la dernière fois, bien sûr, du bilan du Parlement européen et des prochaines élections européennes. Donc, on peut dire qu'il y a quand même à Angers des étudiants qui prennent des initiatives pour aller vers l'Europe et s'intéresser à ce qui s'y passe.
C'est vous tous les deux qui êtes à l'origine de la thématique de cette semaine internationale sur l'Europe. Quel était le programme ? Qu'est-ce que les étudiants ont pu y voir, ont pu y apprendre ?
Alors, on est en plein dedans, en fait. Donc, c'est la semaine internationale.
Ça se termine demain, vendredi.
Oui. Voilà. Alors, la semaine internationale, il y avait aussi beaucoup d'autres choses pour... présenter, en fin de compte, tous les programmes pour partir à l'international. Pourquoi c'est intéressant ? Pourquoi c'est même... peut-être une très très bonne idée de partir à l'international. On prépare aussi tous ceux qui ont été sélectionnés, parce que là, tous nos étudiants qui vont partir l'année prochaine ont été sélectionnés. Donc là, on a eu beaucoup de temps.
Bravo à eux.
Voilà, on a eu beaucoup de temps avec eux, bien évidemment, pour les préparer, pour leur expliquer toutes les démarches qu'il va falloir faire à partir de maintenant. Et puis, effectivement, le thème de l'Europe et des élections européennes. Donc mardi, il y avait une première conférence sur le réseau des maisons de l'Europe. Parce que, en fin de compte, les étudiants ne connaissent pas forcément. Donc, c'est quoi une maison de l'Europe? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'ils font? Et là, on a découvert quand même tout le programme, qui est un programme très, très intéressant. Et on a décidé justement que Monsieur Mignet allait nous donner, en fin de compte, les informations sur ce programme. Et nous, on va donner ces informations à nos étudiants. Donc, qu'on communique plus largement, en fin de compte, sur ce que font les Maisons de l'Europe, et notamment la Maison de l'Europe sur Angers, auprès de nos étudiants, pour qu'ils aillent aux événements qui ne sont pas à l'université, mais qui les concernent totalement. Donc ça, c'est la première chose. Et donc là, tout à l'heure, donc à partir de 17h ou 17h30, donc cette conférence plus sur les élections européennes. Et toute la semaine, donc il y a l'exposition qui est dans le hall.
Dans le hall.
Voilà, qui permet de prendre son temps et de lire beaucoup d'informations.
Et là, ce jeudi, là, de 15h à 17h, avait lieu aussi une session de retour d'expérience.
Voilà, oui, entre, que je suis en train de rater.
Entre les jeunes qui sont partis et ceux qui les rencontrent.
Voilà, voilà, les jeunes aussi, qui sont revenus.
Oui,
voilà,
c'est ça, ceux qui sont revenus et ceux qui vont partir. Ça aussi, voilà. Je pense que c'est des échanges qui doivent être absolument passionnants.
Ah ben oui, oui, alors c'est peut-être bien que je ne sois pas là, comme ça ils peuvent parler plus librement de leurs expériences. Mais oui, ça, c'est, on le fait tous les ans, c'est très, très important parce que ça rassure beaucoup, parce que mine de rien, c'est sympa de partir à l'international, mais une fois qu'on est sélectionné et qu'on commence à nous dire qu'il va falloir faire ça, ça, ça et ça, là on se dit ça y est, je me jette un peu dans le grand bain et je vais vraiment partir. Bon, en fait, ça se passe comment? Quelles sont les erreurs à ne pas faire? Et puis selon les universités d'accueil, c'est très différent. Donc avoir l'expérience des autres, rien que sur le logement, comment ça se passe quand on arrive? Les erreurs à surtout pas commettre, ben c'est intéressant, voir où est-ce qu'ils ont voyagé aussi, voilà, c'est forcément un plus de pouvoir discuter entre eux.
Entre vous et moi, juste comme ça, on est un petit comité. Est-ce qu'on travaille vraiment pendant un Erasmus? Est-ce que c'est pas l'occasion un peu de rencontrer, de faire la fête? Et c'est aussi comme ça que voilà, les rencontres et par les échanges informels, par les soirées joyeuses et conviviales entre tous ces étudiants qui profitent de cette mobilité internationale européenne.
Parce que vous croyez que les étudiants à Angers ils font pas la fête?
Non, parce que je suis en train de dire. Non, donc, c'est que ces rencontres là sont aussi l'occasion pour beaucoup d'étudiants. Et quand on part en Erasmus, on raconte plus ses anecdotes avec ses copains et ses copines plutôt que les formidables cours où on n'a rien compris en anglais.
Je pense qu'ils sont tout à fait capables de faire les deux. Et moi, je leur dis de profiter, bien évidemment, surtout dans des universités partenaires. Il y a vraiment énormément de choses qui sont faites pour les Erasmus et des voyages vraiment pas chers dans des pays limitrophes ou certaines régions du pays où ils sont, etc. Donc, bien évidemment qu'il faut qu'ils en profitent, s'ils sont jeunes, qu'ils en profitent, mais qu'ils n'oublient pas, qu'il faut qu'ils valident. Parce que nous, les étudiants partent en mobilité, ils font d'une pierre deux coups, c'est-à-dire qu'ils partent et ils valident un semestre ou une année qu'ils n'auront plus à faire à Angers. Donc, c'est quand même super. C'est d'avoir une expérience, avoir des compétences qu'on ne va pas acquérir en restant à Angers, valider son année et pouvoir voyager en plus et profiter effectivement de non seulement du pays, donc de s'ouvrir à une autre culture, mais aussi de rencontrer. Ils rencontrent plein d'autres Erasmus. Donc qu'un étudiant fasse la fête, mais c'est normal. Enfin, s'il ne fait pas la fête, moi je m'inquiète.
L'imaginaire est saturé par ce film.
Oui, bien sûr, L'Auberge espagnole.
L'Auberge espagnole, bon, je suppose qu'on vous en parle régulièrement.
Oui, bah, surtout ceux qui vont en Espagne.
Oui, voilà. Vous n'êtes pas trop inquiète? On arrête tous les partenariats avec l'Espagne.
Non, ils reviennent avec des bonnes notes. Ils sont sérieux, nos étudiants. Ils savent s'amuser, ils savent bosser quand il faut. Non, j'ai confiance.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Christophe. Daniel et Catherine Defunkrabski d'avoir répondu à nos questions sur les ondes de Radio Campus Angers. On se laisse avec une pause musicale pour les prochaines minutes. Une harpiste ukrainienne, Alina Bzezinska, et son titre incroyable Soul Vibration, issu de son nouvel album Réflexion. On écoute ça évidemment, cette artiste ukrainienne, en hommage à toute la solidarité européenne qui s'est construite autour de l'Ukraine après le début de la guerre d'annexion russe. On écoute Alina Bzezinska et on se retrouve juste après pour discuter avec Jean-Marc Minier, président de la Maison de l'Europe 49. A tout de suite sur les ondes de campus. Alina Bzezinska sur les ondes de Radio Campus Angers avec son nouvel album Reflection, une harpiste ukrainienne. Ça me plaît beaucoup, ça nous a beaucoup plu, c'est évidemment sur les recommandations d'Étienne, programmateur de Radio Campus Angers. On est ensemble depuis la faculté droit et co-gestion de Saint-Serge à l'occasion de la semaine internationale de l'université d'Angers et de la faculté droit et co-gestion, et on parle d'Europe avec nous autour de la table. Jean-Marc Minier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes donc le président de la Maison de l'Europe du Maine-et-Loire, et je vais vous poser une première question, Jean-Marc Minier, pour vous, c'est quoi l'Europe ?
Eh bien, ce qui me vient spontanément à l'esprit, c'est la devise de l'Europe, unie dans la diversité. Et ça, c'est très important d'avoir en permanence cette devise à l'esprit, puisque les 27 pays représentent cette diversité européenne que l'Union européenne entend bien préserver. Et d'ailleurs, le principe fondateur de l'Union, qui est le principe de subsidiarité, laisse soin aux États membres de régler les questions qui sont les mieux à même de régler par eux-mêmes dans un cadre, bien sûr, européen. Donc, il faut jamais perdre de vue qu'il y a ces deux dimensions d'unité, bien sûr, mais aussi de préservation de la diversité. Et dans la perspective d'un élargissement dont on parle beaucoup, c'est encore plus important d'avoir à cœur de préserver cette diversité, de telle façon que les Européens n'aient pas le sentiment, en quelque sorte, d'abandonner ce qui fait leur identité nationale au profit d'un espèce de magma qui serait l'Europe, et dont d'ailleurs les populistes et les nationalistes de tout poil font leur miel en ce moment.
D'ailleurs, on en parlera juste après de la montée de l'extrême droite dans les sondages et leur arrivée encore plus nombreuse au sein du Parlement européen. Mais avant de parler des élections, je voudrais vous parler du désintérêt des Français pour l'Europe et de la forte abstention qui touche les élections à chaque scrutin européen. Les derniers résultats de participation, c'était 50% des Français qui s'étaient déplacés. Celui d'avant, c'était 44%. Le prochain, c'est le 9 juin. Bon, le taux de participation est en augmentation, mais aujourd'hui, seuls 44% des Français sont aujourd'hui sûrs et certains d'aller voter. Comment est-ce que la Maison de l'Europe analyse ces chiffres et ce désintérêt ?
Eh bien, il y a une première analyse qui tient au fait qu'en France, peut-être pas qu'en France, mais particulièrement en France, les médias ne parlent presque jamais de l'Europe. À une brillante exception.
Arte, évidemment.
Arte, et dont nous profitons dans le Grand Ouest, avec Ouest France, qui est le seul grand journal de la PQR à avoir une rubrique Europe régulière, avoir des journalistes qui sont spécialisés et compétents, et qui parlent fort bien d'Europe, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Donc, si vous voulez, nos concitoyens n'entendent presque jamais parler d'Europe que lorsqu'il y a des crises, que lorsqu'il y a des réunions extraordinaires du Conseil européen pour dénouer une de ces crises, mais c'est à peu près tout. Et autre difficulté qui tient à la spécificité des fonds européens, qui apportent des soutiens très importants, sauf que c'est toujours en cofinancement avec l'État, avec la région, avec
les départements. Les collectivités locales,
ouais. Et donc, pour le citoyen français qui bénéficie indirectement de ces fonds européens, il en bénéficie à travers l'État ou des collectivités territoriales qui, fort légitimement, ont tendance à se mettre en avant. Et on oublie bien souvent de signaler qu'il y a un cofinancement européen qui peut être de 50, mais voire de 60 ou 70%. Mais ça, personne ne le sait. Et il y a bien des petits panneaux qui sont réglementaires pour signaler un cofinancement européen, mais ils sont de la taille d'une feuille A4, ils ne sont pas toujours mis bien en valeur. Donc, tout ceci contribue à entretenir l'ignorance, parce que je crois que plus qu'un désintérêt, c'est d'une ignorance qu'il faut parler. Donc c'est là que le problème est crucial. Et bien sûr, c'est le rôle des Maisons de l'Europe, des 37 Maisons de l'Europe en France, que de s'efforcer de porter l'information vers nos concitoyens.
Aujourd'hui, plus de Français ont voté aux dernières élections européennes que pour élire leurs députés au sein du Parlement en France. Et ça aussi, c'est des sortes d'anomalies. C'est pour ça que le désintérêt peut aussi être nuancé.
Vous avez raison de souligner ce chiffre parce que, effectivement, la démobilisation en matière d'élections est malheureusement une tendance lourde. Et dans ce contexte-là, finalement, le score de la participation en légère progression des élections de 2019 est à mettre en exergue, puisque effectivement, c'est après les présidentielles la deuxième élection où les Français votent le plus.
Comment ça se passe chez nos voisins européens? Est-ce que ce désintérêt ou cette méconnaissance de l'Union européenne est aussi notable qu'en France?
La France, malheureusement, fait partie des mauvais élèves avec certains pays d'Europe centrale ou orientale comme la Slovaquie ou la Tchéquie. Mais par exemple, en Pologne, la mobilisation est plus forte. Dans les pays du Sud également, on constate d'ailleurs que plus un État membre est rentré précocement dans l'Union, plus il y a un risque de moindre intérêt parce que ça fait partie des choses dans lesquelles on vit et on n'y pense plus. En revanche, les États membres nouvellement intégrés, eux, sont beaucoup plus à la fois pro-européens et entendent participer notamment aux élections.
Le rôle de la Maison de l'Europe, c'est d'amener un maximum de personnes à prendre conscience des enjeux citoyens, climatiques, culturels du projet européen. Et c'est une question un peu triviale, Jean-Marc Minier, mais est-ce que l'Europe, c'est sexy ?
Il nous appartient de rendre l'Europe sexy. Alors, vous venez d'interviewer nos amis de la faculté de droit, économie et gestion sur la mobilité. Il est clair que le grand atout de l'Europe vis-à-vis des jeunes, c'est la mobilité. Et nous, en tant que Maison de l'Europe, quand on aborde les jeunes, c'est d'abord à travers la mobilité et le programme Erasmus+, qu'on peut les attirer. Et puis après, on peut leur parler d'Europe. Mais j'allais dire que de manière générale, l'enjeu, c'est pas tant de parler d'Europe. L'enjeu, c'est de montrer à nos concitoyens qu'au cœur de leurs préoccupations quotidiennes, il y a toujours un petit bout d'Europe. Et qu'au cœur de ce qui les intéresse, sans qu'ils le sachent et qu'ils en aient conscience, il y a un programme, il y a une politique européenne qui, en quelque sorte, contribue à ce qui les intéresse, à ce qui les préoccupe, et au premier rang duquel le climat. Et là, je crois que c'est pas difficile de faire comprendre à nos concitoyens que sur des enjeux tels que le changement climatique, seule une entité de l'importance de l'Europe peut peser dans le monde. Chaque pays individuellement n'a aucune prise sur le changement climatique ou tellement marginal. Donc il y a des domaines où on comprend bien que c'est ensemble qu'on peut faire face. Désormais, avec la crise ukrainienne, on commence aussi à prendre conscience que la défense européenne, c'est un enjeu qu'il faut le faire ensemble. Il ne s'agit pas de parler d'armée européenne, il s'agit de bien parler de défense européenne et de ne pas exclure l'importance de l'OTAN en matière de défense. Il ne faut pas opposer défense européenne et OTAN. Mais c'est dans les moments où il y a des crises ou des enjeux majeurs qu'on peut faire valoir auprès de nos concitoyens qu'il faut faire ensemble.
Cependant, là on a bien vu que ce que vous dites là, c'est les extrêmes qui s'en sont emparés. Et depuis le Brexit, avant il y avait des mouvements d'extrême droite qui prêchaient pour une sortie de l'Europe, que la France, ce fameux Frexit, c'est pareil en Italie ou en Espagne. Là, les extrêmes droites, les populismes, les nationalismes qui montent ne veulent plus sortir de l'Union européenne et veulent se faire élire au Parlement européen afin de détricoter l'Europe de l'intérieur.
C'est exact, ils ont changé de posture. C'est plus sortir de l'Europe ni de l'euro, c'est effectivement transformer l'Europe de l'intérieur dans un sens qui consisterait à redonner beaucoup plus d'autonomie et de souveraineté aux États membres, mais quelque part, c'est contradictoire avec les grands enjeux qui se présentent à nous dans les années à venir, où c'est pas les États membres individuellement qui peuvent avoir une prise sur ces enjeux, c'est bien en jouant collectif. Donc il y a la position des extrêmes et des populistes est empreinte de pleine de contradictions. Et quand on voit en plus la façon dont ils ont, dans leurs députés, ont voté lors de la dernière mandature, où en gros ils ont dit non à tout, y compris à des mesures qui étaient favorables, notamment au climat, on peut s'interroger sur la cohérence de leurs propos.
Il y a une particularité aux élections européennes, c'est que c'est les seules élections qui vont au-delà des enjeux nationaux, évidemment. Les enjeux nationaux reviennent dans la campagne autour des élections européennes, c'est même le cœur de beaucoup des propos qui sont tenus dans ce début de campagne. Évidemment, Manon Aubry, mais il faut aussi François-Xavier Bellamy ou Jordan Bardella se servent des enjeux nationaux pour leur campagne. Est-ce que ça se passe de la même manière chez nos voisins européens ? Comment faire pour que la campagne dépasse le cadre national quand on parle d'Europe ?
C'est bien difficile, faut en convenir. Tout dépend du climat politique et du climat d'affrontement entre les différents partis dans les États membres. Mais effectivement, la particularité de la France, et c'est pas seulement lors de ces élections européennes, c'est ce qu'on appelle le phénomène de la nationalisation des enjeux de l'élection européenne et d'en faire en quelque sorte le troisième tour de l'élection présidentielle. Je pense que
on parle du premier tour de l'élection présidentielle.
Dans les autres États membres. Pour autant que j'ai des informations, j'ai l'impression que ce phénomène de nationalisation des enjeux est moins fort, mais il faut bien reconnaître que la montée des extrêmes droites dans la plupart des États membres, et en particulier en Allemagne, où c'est un phénomène nouveau et
avec
préoccupant.
L'AFD qui, voilà. Des néo-nazis.
Tout à fait. Et en Allemagne, sans pousser bien loin l'analyse, on voit que l'AFD surfe sur une certaine désillusion, pour ne pas parler d'un déclassement, d'un sentiment de déclassement des Allemands de l'ex-Allemagne de l'Est, qui ont l'impression de n'avoir jamais pu rattraper leurs concitoyens de l'Ouest.
Ce soir, à 19h, se termine la conférence sur les élections européennes de 2024, ici à Saint-Serge, à l'occasion de la semaine internationale de la faculté droit, économie, gestion de l'Université d'Angers. Ces élections européennes de 2024 visent à élire les membres du Parlement européen. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu les prérogatives du Parlement européen, notamment face à la Commission européenne, qui sont un peu les deux entités qui se répondent ?
En fait, il y a trois entités, quatre si on rajoute le Conseil européen qui, pour les grandes options, réunit les chefs d'État. Mais il y a la Commission qui propose, et puis ensuite qui applique les lois. Et puis il y a deux co-législateurs, le Parlement européen et le Conseil des ministres, qui sont bien co-législateurs, c'est-à-dire que pour qu'une loi soit votée, il faut l'accord de ces deux co-législateurs, les uns représentant les électeurs, les peuples européens, les autres représentant les États membres.
Donc les prérogatives du Parlement européen.
Alors, en plus de voter la loi, c'est aussi voter le budget, très important, notamment le budget pluriannuel sur la période 2021-2027. Ensuite, c'est valider la nomination par les États membres des commissaires. Et ça marche pas à tous les coups, parce qu'il y a des commissaires qui ont été retoqués par le Parlement, y compris des Français. Le Parlement européen peut lui-même sanctionner la Commission, donc renverser la Commission, c'est arrivé dans le passé. Et le Parlement européen, à travers ses députés, doit faire le lien avec les électeurs, faire remonter les sentiments, les points de vue, les préoccupations des électeurs et expliquer autant que faire se peut les politiques européennes. Et je constate que les députés européens ou les députées européennes nouvellement élus en 2019 ont eu à cœur de rendre compte très régulièrement auprès de leurs électeurs, ça s'est fait à Angers, de la façon dont ils ou elles exerçaient leur mandat. Et ça, c'est un petit peu nouveau. Et c'est tout à fait souhaitable que ça se poursuive.
Dans le Parlement européen, évidemment, il y a tout un tas de groupes et d'organisations politiques qui sont représentés. Et on parlait tout à l'heure de la montée en puissance des populismes, de l'extrême droite partout en Europe. Et les projections donnent une forte progression des deux groupes d'extrême droite au Parlement. Donc il y a Identité et Démocratie, où siège Marine Le Pen, et les conservateurs européens de l'autre côté, où siège Giorgia Meloni, notamment donc, la première ministre italienne. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi il y a deux groupes, pourquoi ces deux groupes ne s'entendent pas, et est-ce qu'il y a une possibilité pour que ces deux groupes se rejoignent à l'issue de ces élections et de ce scrutin le 9 juin ?
Alors, il y a deux groupes parce qu'ils défendent des positions différentes sur un certain nombre d'aspects, et en particulier sur la crise ukrainienne en ce moment. Idée est plus proche des points de vue de la Russie, on va dire, alors que...
Idée, c'est Identité et Démocratie, où siège Marine Le Pen.
Et ECR, où siège Giorgia Meloni, qui est la plus en vue, est au contraire... à fond pour soutenir l'Ukraine et pour soutenir les décisions européennes en la matière. Et je pense que ce clivage va perdurer, quels que soient les résultats. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais ça les empêchera de faire cause commune sur un certain nombre de sujets. Et donc, le vrai risque, c'est que s'ils sont sensiblement plus nombreux qu'ils ne l'étaient jusqu'à présent, c'est de constituer... une forte minorité de blocage, notamment sur les questions climatiques, parce que au-delà de tout ce qui développe, curieusement, ils font obstacle à toutes les dispositions en faveur de la protection du climat. Ce qui n'est pas très cohérent, là encore, ne serait-ce que vis-à-vis de leurs électeurs.
Je vais reprendre le titre un peu provocateur d'un ouvrage de Patrick Martin-Génier, que vous connaissez peut-être, spécialiste de l'Europe, enseignant à Sciences Po, qui a écrit un livre qui s'intitule « L'Union européenne a-t-elle encore un avenir ?» Eh bien, j'ai envie de vous poser la question, Jean-Marc Migny. Est-ce que l'Union européenne a encore un avenir ?
Je l'ai souligné à plusieurs reprises. L'Union européenne a un avenir parce que les enjeux qui se présentent à nous et qui se présentent au monde entier sont d'une telle importance, que ce soit le climat qui est le premier de ces enjeux, mais bien d'autres, quand on parle du numérique, quand on parle bien sûr des questions de défense dans un monde qui ne cesse de se réarmer, on voit bien que seuls les États européens ensemble peuvent faire avancer les choses et peuvent continuer à peser dans le concert des nations face à des empires qui souhaitent se reconstituer, face à la Chine, face à la Russie, face à l'Iran, face à l'Inde. Et il est clair que face à ces géants qui désormais ne cessent de prendre des positions divergentes de celles qui faisaient consensus au sein du monde occidental, seule l'Union européenne, qui est une chose unique en son genre, et souvent pour cette raison difficile à comprendre, peut faire face. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre à nos concitoyens.
Jean-Marc Migny, on va se laisser quelques instants avec un trio, le trio Mare Nostrum. On reviendra juste après pour parler de l'application concrète de l'Europe sur nos territoires. Mare Nostrum, c'est un trio avec un Suédois, Yann Lundgren, un Italien, Paolo Fresu, et un Français, Richard Galliano. Un bel exemple, évidemment, de collaboration. Je vous dis pas le titre tout de suite, mais vous allez sûrement le reconnaître. À tout de suite sur Radio Campus Angers. Restez bien avec nous. Thank you. Les Moulins de mon cœur sur campus dans cette magnifique version de l'ensemble Mare Nostrum avec un Italien, un Suédois et un Français à la baguette. Vous êtes toujours sur Radio Campus Angers en plein cœur de la faculté droit, économie, gestion de Saint-Serge à l'occasion de la semaine internationale de la dite faculté. Et on est toujours avec Jean-Marc Minier, président de la Maison de l'Europe, avec nous sur les ondes de Radio Campus Angers. Et il nous reste quelques minutes pour un peu discuter ensemble de l'application concrète sur le terrain des prises de décision par l'Union européenne. Évidemment, vous n'êtes pas passé à côté des mobilisations énormes des agriculteurs partout en Europe, en Allemagne, en France évidemment, mais aussi en Pologne. Tous s'accordent à dire qu'il faut reconsidérer un peu les enjeux administratifs et notamment les questions autour de la PAC, la politique agricole commune. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette PAC? Pourquoi est-ce qu'elle est tant décriée?
Alors, ce qui est paradoxal, c'est que la PAC n'avait pas encore été mise en application. Donc, on va dire que les agriculteurs ont crié avant d'avoir mal, mais... Tout n'était pas injustifié et il est clair que la pression réglementaire avec en France le génie de notre administration d'en remettre une couche par rapport à la couche européenne fait que effectivement les agriculteurs ont dit on n'en peut plus. 14 réglementations rien que pour les haies, c'est complètement idiot. La décision de sagesse, c'est qu'il n'y en ait plus qu'une. Donc je crois que effectivement, tous ces mouvements ont permis de faire prendre conscience peut-être à des fonctionnaires européens et des États membres que trop c'est trop et qu'il fallait prendre des mesures de simplification. Et pérenniser des mesures qui avaient été prises à la faveur de la crise du Covid, comme par exemple suspendre les 4% de jachère. Donc, ça y est, la prise de conscience est faite, que ce soit au niveau européen où la Commission a réagi très vite, qu'au niveau français, et ça va se traduire dans la nouvelle loi d'orientation agricole, parce que il faut savoir que la nouvelle PAC est laissé beaucoup plus dans son application dans chacun des États membres à la discrétion des États membres dans le respect du cadre et ce cadre prévoit d'être en harmonie avec le pacte vert et la préservation du climat et de l'environnement, mais il y a des latitudes plus larges au point que certains ont parlé de renationalisation de la PAC laissée aux États membres, et je pense que c'est une bonne chose parce que quand je vous parlais d'unis dans la diversité, il y a une telle diversité des agricultures dans les États membres qu'il faut en tenir compte et pas appliquer de manière abrupte et partout de la même façon un certain nombre de dispositions. Cela dit, le vrai débat, celui du revenu des agriculteurs, il n'est pas encore tranché. La France a fait des avancées avec la loi Egalim, avec les lois Egalim. L'enjeu maintenant, c'est d'avoir une loi Egalim au plan européen pour éviter que, on en a suffisamment parlé, que les grandes centrales d'achat françaises contournent la loi Egalim en s'adressant à leurs centrales européennes, par exemple.
La PAC, c'est aussi évidemment tout un tas de bureaucratie. Est-ce que ça, et en fait, on a envie de se dire aussi, ben, ça vaut. Enfin, faire de la bureaucratie pour derrière avoir des aides, il faut montrer patte blanche. C'est un peu le principe.
Tout à fait. En matière de financement européen, quel qu'il soit, la règle, c'est de faire en sorte que on ne fasse pas n'importe quoi, qu'on vérifie que les dossiers sont bien montés, correspondent à une réalité, et derrière, avec un certain nombre de contrôles. Pourquoi ? Parce que, notamment les États membres les plus récemment arrivés n'avaient pas toute cette culture ni ce dispositif administratif pour respecter toute la réglementation et toutes les conditions à la fois pour obtenir, mais aussi utiliser les fonds européens. Et il y a eu un certain nombre de dérives, y compris des captations dans certains États membres que je ne citerai pas, par l'oligarchie au pouvoir des fonds européens. Donc, c'est normal qu'on contrôle, mais il y a des limites et les dispositions qui sont en train d'être prises pour les petites exploitations, où il n'y aura plus qu'un contrôle par an, et c'est 65% du tissu, me paraissent bien fondées.
Peut-être pour conclure nos échanges, on parlait tout à l'heure de méconnaissance de l'Union européenne par les citoyens et les citoyennes de l'Union européenne. Cette semaine européenne organisée par l'Université d'Angers et la Faculté de droit et co-gestion permet de sensibiliser les étudiants et les étudiantes à l'Europe. À Angers, pour rentrer dans le concret, qu'est-ce que les étudiants et étudiantes vivent au quotidien qui est permis grâce à l'Europe ?
Alors l'Europe a cofinancé le tram, en tout cas les études, a cofinancé la rénovation du centre de congrès, a cofinancé un certain nombre d'investissements dans le domaine de la recherche, notamment médical, mais également sur le végétal. Il y a un aspect totalement méconnu, qui est le Fonds social européen, qui abonde largement tous les dispositifs d'insertion et de protection sociale qui passent par le Conseil départemental. Donc voilà quelques exemples, mais il y a également ce qu'on appelle les fonds leaders qui permettent à des petites communes de co-financer des investissements dans les domaines de la rénovation énergétique, dans le domaine du tourisme. Donc, il y a une multitude d'applications locales qui mériteraient d'être mieux connues et mieux mises en avant par leurs initiateurs.
Eh bien écoutez, merci beaucoup Jean-Marc Migné d'avoir répondu à nos questions sur les ondes de Radio Campus Angers depuis la faculté droit, économie, gestion de Saint-Serge. C'est la fin de cette émission spéciale sur Radio Campus à l'occasion de la semaine internationale de la faculté droit et co-gestion. Un grand merci à toutes et à tous d'être restés avec nous. Un grand merci évidemment à tous les participants et participantes à cette émission. Nous, on revient très vite sur les ondes de Radio Campus Angers. Et d'ici là, restez bien à l'écoute. Et surtout, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.